On vous attend dans notre salon.
Tania de Montaigne.
Et on n'est pas tout seul.
Bonjour, bonsoir.
Alexandre et Rose.
Alors Elisabeth. Elisabeth Carr, on vous a vu tout à l'heure.
C'est vrai, il y a des écrivains, des musiciens, des comédiens, des éthologues.
Des ethnologues, des dessinateurs, des sculpteurs de géants, des danseurs, des arachnophobes.
Et j'ai le sentiment que cet homme s'ennuie beaucoup avec lui-même.
Chaque soir.
Alors je vais chanter une chanson que je vais chanter pour l'instant.
Chez nous.
Qu'à ma copine.
C'est chez vous.
Déconcertant.
N'importe quand, quand vous voulez, je vais venir.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi.
C'est tout.
À partir de 21h. France Inter.
La différence.
Courez vite, il y a un répondeur, c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
La Grèce doit rembourser 15 milliards avant la fin du mois pour éviter la faillite. Entendu ce matin à la radio. Ah bon, l'entreprise grecque fait faillite, il n'y a pas de repreneur, donc le super pouvoir mondial va liquider le pays et mettre les Grecs à la rue. Eh, faut arrêter d'utiliser des termes d'entreprise pour parler des démocraties. Si les journalistes font même plus attention à ça, où est-ce qu'on va ?
Patrice Hénin, candidat à la présidentielle, et ensuite à la députation dans le Paris 12e, 8e circonscription. Le message est le suivant. La maternité des Bluets, Paris 12e, est en danger. Appelez à la manifestation des femmes, des bébés pour sauver les Bluets au bord de la cessation de paiement. Comment accepter de brader la naissance ? La maternité Saint-Antoine ferme le 9 février, c'est une honte. Les Bluets sont menacés financièrement, exsangues. Les femmes et les bébés méritent mieux que l'accouchement bradé. Cela fait 5 ans que l'accouchement normal est de moins en moins rémunéré. Pour obliger les maternités à fermer ou à faire plus d'accouchements au détriment de l'accompagnement, de la prévention, de tout ce qui fait la réputation de notre maternité. Une société qui ne reste plus ses femmes et ses enfants a-t-elle de l'avenir ? Il est question de 3000 naissances par an, 1000 IVG, et il paraît que ce n'est pas assez rentable, il faudrait en faire plus. Usine à bébé.
Salut les AMG, la réunion du repère de Briouze dans l'Orne se tiendra ce mercredi 25 janvier à 18h au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit. Le 25 à 18h au Brazza à Briouze. Salut!
Bonjour, j'habite Rouen dans la Loire et aujourd'hui, les commerçants de Rouen font la grève de la faim. Ils ont installé une caravane sur la place des promenades parce qu'elle est en réfection. Donc ça leur enlève des clients et ils font une grève de la faim sur la place des promenades. Donc cet après-midi, je vais aller leur porter une petite bouteille d'eau, les pauvres. Hein. Vous savez, Rouen, c'est la ville des frères Trois Gros. Voilà. Merci, continue bien Daniel, bye bye, bis à tous et courage.
Salut à tous, eh bien midi aux infos de 13h, nous avions Jacques Séguéla. Ça c'est du lourd, c'est du costaud, ça c'est un intello, c'est pas les Bourdieu et les Lordons avec leurs théories fumeuses. Lui au moins c'est un vrai, un intello. Il avait dit si t'as pas une Rolex à 50 balais t'es rien. Eh ben ça c'est de la formule les petits gars. Bon, moi j'ai 66 balais, j'ai une Jaeger LeCoultre marocaine. Bah, on peut dire que j'ai foiré ma vie. Hein. À la revoyure, c'était Philippe, du 32. Adios.
Oui, je voulais réagir suite au message que j'ai entendu, là, ce monsieur qui était en train de dire « Ah, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est ça, votre patron. Ils ont voulu encore optimiser leur fric pour en avoir encore un peu plus. » C'est absolument... absolument consternant, alors qu'il a fait comme tout à chacun, il a essayé d'optimiser son pouvoir d'achat, comme on peut essayer d'optimiser son temps libre, voilà. Mais non, on ne parle encore une fois que ces salauds de patrons, et ces gens qui sont simplement là pour créer la richesse et faire que beaucoup de gens, grâce à ces salauds de patrons, arrivent à vivre. Mais non, ce sont des salauds de patrons. Vraiment, vraiment, je trouve que ces jugements sont vraiment d'une stupidité. On regarde vraiment pas plus loin que le bout de son nez. Hein. Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.
Bonjour, cher AMG. C'est Henri de Lyon. À propos du génocide turc sur les Arméniens, je constate que notre cher président a pensé à son intérêt personnel pour récupérer 100 000 voix d'Arméniens plutôt que l'intérêt général. Parce que nous allons encore perdre des marchés et nous fâcher avec un pays. Comme si la France avait bien besoin de ça. Alors pour un président qui doit montrer l'exemple, eh bien bravo. Lamentable. Moi, je ne sais pas pour qui je vais voter, vous voyez, mais sûrement pas pour lui. Salut.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent toujours ici à Budapest, où nous continuons notre enquête sur ce pays bien compliqué, mais qui nous révèle bien, bien des surprises jusque-là. Alors, vous le savez, c'est la grande affaire. Le Sénat a validé la loi votée par l'Assemblée nationale le 22 décembre, loi qui pénalise la négation des génocides reconnus par la loi française. Alors, ça n'a pas échappé à une partie des observateurs. Il s'agit là, bien sûr, d'un pur opportunisme électoraliste. Mais ce genre de choses, très souvent, sont utilisées à des fins politiques. L'opportunisme politique, l'opportunisme électoraliste n'hésite pas à s'emparer du malheur des peuples lorsqu'il s'agit de rafler les suffrages. Ça ne trompe personne, néanmoins, la question reste entière. La question de savoir si c'est la loi qui doit écrire l'histoire. La réponse pour beaucoup d'historiens prestigieux, importants, de référence, je pense à Pierre Vidal-Naquet, est non, ce n'est pas la loi qui doit écrire l'histoire. L'histoire, c'est l'affaire des historiens, mais comme souvent les historiens sont au service du pouvoir, eh bien l'histoire, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous parce que l'histoire est très largement imaginaire, l'histoire est très largement construction. Oui, on peut chercher et trouver parfois la vérité dans l'histoire, mais dans l'usage de l'histoire, il y a toujours reconstruction et vue de l'esprit. Aujourd'hui, on revient sur une émission du 6 juin 1995. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Et le 6 juin 1995, avec Zoé Varier, que vous connaissez, qui est toujours sur France Inter le vendredi soir pour le bonheur de tout le monde, nous avions rencontré Zipour. Zipour, l'arménienne. Zipour, qui raconte le génocide des Arméniens. Oui, cette femme avait vécu le génocide des Arméniens et elle le raconte avec ses mots, avec sa mémoire, avec ses hésitations, avec ses silences. Et ça, c'est un morceau d'histoire. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, la révolution égyptienne continue au Caire, en Égypte, mais aussi à Paris. Dès le 25 janvier, les jeunes égyptiens et le mouvement de solidarité pour l'Égypte organisent une manifestation à 17h, place du Trocadéro, jusqu'à l'ambassade d'Égypte. Une série de films va avoir lieu, le Tahrir, plus 9 autres films au cinéma La Clé, Les Trois Luxembourg, L'Écran à Saint-Denis, qui vont donner lieu à des débats sur les femmes dans la révolution, la répression, le mouvement social, la géopolitique. On invite tous les auditeurs modestes et géniaux de là-bas, si j'y suis, à venir nous rejoindre du 25 janvier jusqu'au 17 février à Paris, mais également en région, à Brest, à Lyon, à Marseille. Demandez le programme. À bientôt. Au revoir.
À Avignon, ce jeudi 26 janvier, ATTAC et la FSU Vaucluse invitent le CADTM, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, pour se demander comment sortir du piège de la dette publique, sous-entendu autrement qu'en massacrant les salariés. À défaut d'être au cœur des médias, la question sera posée au cœur de la cité, puisque la réunion publique se déroulera à la mairie d'Avignon, ce jeudi 26, donc à 18h30. Venez nombreux, tous ceux dont les revenus ne viennent pas de leur capital, mais de leur travail, ont intérêt à une vraie alternative, ça devrait faire du monde.
Bonjour, c'est Philippe. J'ai entendu là, à la radio que les Anonymous en étaient pris à une multitude de sites gouvernementaux et sites de maisons de production audiovisuelle. Et ça ne m'a pas échappé qu'ils ont dit qu'ils pourraient bien s'en prendre à des sites internet, à des réseaux internet des banques. Alors surtout, surtout, que les Anonymous ne nous fassent pas le coup de la promesse électorale. Qu'ils le fassent. Allez-y les gars. Allez, faites-vous plaisir sur les banques d'affaires, les banques privées, les banques spéculatives. Balancez-leur des virus, là, foutez-leur leur putain de système de logiciel boursier en panne. Qu'on arrête de se bouffer les couilles à cause de cette bande de connards là qui nous bouffe notre pognon. Allez-y, vous gênez pas. Et puis au passage, si vous pouvez, là, sur ma banque, je vous donnerai des renseignements, si vous voulez, vous leur faites un petit coup de virus, là, sur mon découvert, là, qui me bouffe avec leurs agios, là. Vous gênez pas, les gars, allez-y. S'il faut donner quelque chose, moi, faites une quête, je filerai de l'argent dans le tronc. Allez-y, vous gênez pas, faites-vous plaisir. Allez, les traders, là, piquez-leur leur surprime, là. À ces bandes d'enfoirés, là. Allez, ah, ça fait du bien. Je sais pas pourquoi, mais ça fait du bien. Allez, au revoir, à bientôt.
Quand les esprits seront mûrs pour réaliser la véritable nature de l'ennemi commun, alors la révolte sera certainement d'une envergure encore peut-être jamais égalée. Ils devront répondre du mépris avec lequel ils ont considéré la commune, dans quel mépris le fruit de nos labeurs fut accaparé, dans quel dédain ils laissèrent croupir cette merveilleuse et nécessaire visée qu'est l'égalité, avec quel stratagème machiavélique ils manipulèrent l'information pour écraser un peu plus chaque jour celle qui donne un sens à nos vies, la fraternité. Et dans quelle hypocrisie abjecte ils voulurent nous faire croire que nous étions libres, libres de consentir à leurs choix médiocres, libres d'accepter leurs règles qu'ils nous imposaient, libres d'être résignés. Tripalium, Saint-Étienne.
Il faut savoir aimer. Est-ce que je dis bêtise?
Hein?
Est-ce que j'ai dit des bêtises?
Bah non, je crois pas.
Non.
Non.
Ça va servir à quelque chose?
Ah oui.
De quoi?
À dire ce qui vous est arrivé, votre histoire.
Moi, j'ai une histoire.
Bah oui, vous avez une histoire.
Et qu'est-ce que ça sera, cette histoire?
Eh ben, c'est l'histoire que vous m'avez racontée, votre histoire à vous.
Une romane, ça sera une romane.
Non, ça sera une émission.
Une émission, hein?
Une émission de radio?
Palef, Inch Pesek, c'est Daniel Mermetian et Zoé Varierian, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Arménie, je ne connaissais pas. Nous avons entendu seulement le nom. Nous entendions, nous adorions, mais il n'y avait pas Arménie pour nous. Alors, maintenant, même, il faut parler le français d'abord. Avec mon français cassé.
Il est bien, votre français?
C'est bien,
oui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que vous voulez que je parle?
Zepour Metspakian, 95 ans, née en 1900 à Trébizonde. C'est avec elle qu'on va passer cette heure. Zepour, Madame Digin Zepour, a vécu le génocide des Arméniens en 1915. Alors chez nous, les Arméniens sont arrivés dans les années 20, à la suite du massacre perpétré par les Turcs et au cours duquel la moitié de la population arménienne de Turquie a disparu. Alors, quelques repères sur l'Arménie, quelques indications. Il faut rappeler, et les Arméniens en sont très fiers, l'Arménie est le premier royaume chrétien. C'est situé entre la mer Noire et la mer Caspienne, vous voyez à peu près. Hein. Et au cours de l'histoire, on va aller vite sur l'histoire des Arméniens, qui est évidemment très riche. C'est un peuple qui a toujours été menacé, placé sous le joug de puissances régionales diverses. Mais on va aller vite au XIXe siècle pour tenter d'expliquer schématiquement les raisons de cette émigration. Au XIXe siècle, l'Arménie historique est partagée entre trois puissances, l'Empire russe, d'une part, la Perse, d'autre part, l'Iran actuel, et puis l'Empire ottoman. Et on peut dire comme ça qu'il y a trois Arménies, enfin une Arménie en trois morceaux. Mais il y a encore un bout d'Arménie, la Cilicie, dans le sud de la Turquie, qu'on appelle aussi la Petite Arménie. Alors les Arméniens sont des chrétiens d'Orient, on l'a dit, du Moyen-Orient, et sont plutôt, enfin il y a une, c'est très, très divers leurs emplois, mais enfin c'est quand même très souvent des marchands assez prospères à cause de la situation dans laquelle ils se trouvent entre l'Europe, l'Asie, l'Orient et l'Occident. Alors, du côté de l'Empire ottoman, les Arméniens sont groupés à l'est de l'Anatolie. Ce sont des montagnards plutôt rustiques, qui sont très attachés à leur religion chrétienne, et c'est ça qui les définit, avec leur langue très importante, c'est ça qui les définit aussi. Ils sont entourés plutôt, disons, de musulmans. Certains sont descendus de leur montagne pour venir et y crever la faim. Ils sont venus à Istanbul pour fuir la misère. Mais à Istanbul, il y a aussi une puissante bourgeoisie arménienne de négociants, d'artistes, d'intellos, toute une élite qui a des liens avec l'Occident, avec l'Europe, avec Marseille, par exemple. Déjà, eh oui. En 1878, c'est la fin de la guerre russo-turque. On dit russo-ottomane encore. Et les Arméniens, du côté de l'Empire ottoman, à travers un mouvement d'émancipation, revendiquent leur indépendance face à la domination ottomane. La réponse, c'est des massacres très durs, en 1894 et 1896. On avance le chiffre de 2 millions de victimes de ces massacres perpétrés contre les Arméniens, avec le concours des Kurdes. Il y a un certain Sultan Rouge qui passera 300 000 Arméniens à lui tout seul par les armes. Et c'est quand même, ça correspond un peu, si on veut faire des analogies, avec les pogroms dont les Juifs sont victimes dans d'autres parties de l'Europe de la part des Russes. Ce qu'on appelle les jeunes Turcs arrivent au pouvoir, ils laissent espérer des réformes, mais c'est l'inverse qui se produit. Et en Cilicie, dans cette petite Arménie que j'évoquais, les Arméniens refusent d'être turquisés et 30 000 sont exécutés. En 1914, sous la pression internationale, l'autonomie, c'est pas l'indépendance, l'autonomie, est accordée aux régions autonomes de l'Empire. C'est-à-dire que certaines régions arméniennes ont une autonomie. Lorsque la guerre de 14-18 éclate, l'Empire ottoman se range du côté de l'Allemagne et le peuple arménien se trouve alors coupé en deux. Les hommes sont incorporés dans chaque camp adverse, russe ou turc. Et des groupes arméniens côté ottoman attaquent les troupes turques qui combattent la Russie. Et prétextant que les Arméniens de Turquie sont a priori favorables aux Russes, le gouvernement ottoman entreprend de déplacer ces populations d'Anatolie arménienne vers la Syrie. Et 1 500 000 personnes sont concernées par cette déportation. Le 21 avril 1915, c'est le début du massacre des Arméniens, d'abord arrestation des représentants de la communauté, puis déportation des populations arméniennes vers la Syrie et l'Irak, mais en fait de déportation, ce sera un massacre par famille entière, torture, barbarie, horreur. Beaucoup périront dans cette déportation aussi de maladies, de faim, de soif dans les déserts d'Anatolie et de Syrie. Et c'est ces gens qu'on va retrouver en France plus tard. Et parmi ces gens, il y avait Zemmour.
1915, on nous a fait exode et massacre en même temps.
C'est-à-dire qu'on est venu vous prendre?
C'est-à-dire après, nous avons compris qu'ils voulaient nous anéantir, la Turquie. Ils voulaient nous finir. Parce qu'il y avait la terre que nous demandions de temps en temps, jusqu'à maintenant même. Alors, pour ça, il a peur, il voulait nous détruire, toujours. Il cherchait une occasion.
Parce que vous vouliez avoir une terre à vous et une indépendance.
Oui, on voulait. Malgré que nous étions comme les Turcs, nous parlions comme la langue maternelle, la turque. Nos enfants allaient à l'école turque aussi pour apprendre la turque.
Vous étiez pareil.
Oui, on commençait comme ici, maintenant. La même chose. Mais ici, c'est la France. Là, c'était Turquie.
Ça, c'est le cadre un peu historique. Mais maintenant, on va rentrer dans l'histoire et la mémoire de Zéphir, Madame Zéphir.
Nous étions une famille très aisée, très bien. Et j'étais l'aînée de 5 enfants. Et après, tout le monde était dans la guerre. On nous a fait exode. On a ordonné de toutes les familles arméniennes, dans 5 jours, préparer et partir. Partir où ? À Mossoul, Bagdad. C'était loin, à pied, 2 mois marcher. Avec le soleil, avec le fin, avec le soif, surtout le soif. Et au mois de juin, juillet, où on a massacré déjà. Nous avons marché 2 mois, enfants, la femme enceinte, tout, les vieillards, tout. Enfin, c'était misère, quoi.
Mais quand l'exode a commencé, quand vous êtes partie avec vous...
Non, je n'étais pas chez mes parents. Quand je suis partie, j'étais seule. Seule avec les autres. Alors je pleurais, je ne savais pas que faire, où aller. J'avais juste tablier de l'école et un manteau. J'avais 14 ans.
14 ans.
Quand je suis arrivée à la groupe, je commençais à pleurer et j'ai entendu Zéphir, Zéphir, mon nom, criait quelqu'un. Je croyais que c'est le soleil est venu. C'était une cousine de ma mère. Et puis après, je suis allée seule avec eux. Mais un mois après, j'ai trouvé ma mère dans un autre groupe, tout nu, une chemise de nuit, les cheveux, il n'y a pas peigné pour payer. Alors, vous savez qu'est-ce que j'ai senti? Je sentis comme une mendiante, ma mère. Et j'étais très bouleversée. Alors, comme ça, nous sommes ensemble, je continuais nos chemins. J'avais 2 frères, 2 sœurs, plus petits que moi. Après 8 jours, à peine, mon frère est mort, 8 ans. Le matin, je suis levée, qu'il est mort à côté de moi. Je dis, maman, Kourken est mort. Il n'a pas pleuré, ma mère. Elle a dit, c'est bien fait, vous êtes sauvée. Après quelques jours, c'est ma mère, morte ou pas morte, je ne sais pas. Et nous sommes tombés dessus pour pleurer. Et le gendarme est venu, allez, marchez, marchez. Et en pleurant, nous avons quitté. Ma mère était morte ou pas morte, je ne sais pas. Allez, marchez, marchez, marchez. Qui est mort, il reste. C'est fini. Oui. Ma mère était chaude quand nous avons quitté et parti. On n'a pas laissé même pleurer un peu. Mon père, je n'ai jamais vu. Je n'ai pas vu mon père. Combien de jours j'ai marché, je ne sais pas. À la fin, nous sommes allés dans un champ pour massacrer. Je ne sais pas où c'est. On nous a fait nus, même les culottes. Vous avez compris? Et d'un côté, tchat, pat, avec des bâtons, on frappait. On frappait, vous entendez, un cri. J'étais debout, un bâton, pop.
On vous a tapé sur la tête.
On frappait comme ça. Moi, je croyais que c'était lumière partout, après sombre, et puis j'ai tombé. J'ai tombé. Et je vois qu'ils ont commencé à frapper à ma soeur de 5 ans. Et j'ai dit tout de suite, faites semblant comme une mort, je dis.
Faites semblant d'être mort.
Non, de mort, allongé à côté de moi, puis il n'expirait pas. Ah, les mots échappent, vous savez, quand je pense tout ça, les mots échappent. Mes blessures étaient très grandes, ici et ici.
Vous aviez des blessures sur le front et sur la tête. Elle monte ses cheveux. Vous avez encore les cicatrices.
Comme ça, c'était comme ça. Trois morceaux étaient ma tête. Et les Arméniennes, après, ils sont guéris. Ça a duré plus qu'un an. Il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour me soigner. Et je prenais de l'eau coulante, comme ça. Et il y avait des poux, il y avait des vers, il y avait de tout ce que vous voulez. Salté. Rire et pleurer son soeur et frère. Après, la nuit est tombée, nous avons resté comme ça, plein de sang. J'ai entendu une voix. Moi, je deviens musulmane, amenez-moi. Moi, je deviens musulmane, amenez-moi. Une fille que j'ai connue, la voix. C'était notre voisine. Alors, j'ai pris courage. Il y avait la lune seulement. Je dis, moi aussi, je deviens musulmane. Amenez-moi aussi. J'ai eu peur quand elle va partir, cette fille. Je resterai seule avec ma soeur. J'ai eu peur. Je dis, moi aussi, je deviens musulmane. Amenez-moi. Amenez-moi. Devenir musulmane, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Moi, je suis, j'ai peur. Je suis arménienne. Ça, il est là. On ne peut, personne ne peut pas prendre, je pensais. Personne ne peut pas prendre mon arménité. Après, je suis assise comme ça, toute nue. Un homme était venu, un Kurde est venu lever. Je dis, je suis toute nue, je ne peux pas. Il a pris une chemise sanglante de sur une mort. Il m'a donné, j'ai pris comme ça devant moi. Et je suis levée, et ma soeur toute nue, elle s'est toute frappée derrière comme ça. Tout était gonflé après, noir, le dos de ma soeur. J'ai 5 ans, vous savez. Et après 6 mois, elle est morte. Tout ça, j'ai pu rêver et vécu. Hein? Et encore, il y a tant de choses que j'ai oubliées. Je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas le temps de penser. Et après... Où j'étais? Je suis perdue. Toutes les choses comme photos maintenant devant moi, ils viennent et je ne sais pas où je suis à ce moment-là. Devant moi, cette chambre, tout.
Vous revoyez tout?
Oui, je revois toujours. Souvent, je pleure la nuit parce que ça vient devant moi, c'est le tableau. Tout est mort, tout ça. À votre âge maintenant, il ne faut pas écouter tout ça et impressionner.
Non. Si, il faut.
Oui, pour mûrir. Mûrir, mais c'est dur. Moi, j'ai mûri, vous croyez? Encore, je suis folle fille, la petite folle fille. On ne mûrit pas, on a le caractère. Qu'est-ce que c'est? Ça reste toujours. Toujours. Si vous êtes gay ou si vous êtes en... Vous cassez, vous êtes cassé. Cassé, mais quand même, une petite lumière reste. Mais j'ai beaucoup pleuré. Regarde mes yeux. Je gonflais comme ça, les lèvres comme ça, gonflées. J'ai trop pleuré dans ma vie. Trop.
Qu'est-ce qui s'est passé après, une fois que le monsieur est venu? Il vous a sauvé?
Ah, monsieur, oui, elle a donné une chemise, j'ai pris, je suis levée. Nous étions 7 blessés. C'est Kurde. Quelques hommes, ils sont pris à nous, 7 personnes. Ils parlaient leur langue, nous ne comprenions pas. Si ils parlaient turque, la langue turque, nous comprenons, mais la langue kurde, nous ne savions pas. Ils ont parlé entre-temps. Et puis, quand nous sommes arrivés à une rivière, ils nous ont dit, lavez dans la rivière votre sang, et puis nous attendons. Ils sont quittés à nous, ils sont partis. Ils n'ont pas attendu à nous. Ils ont vu que nous sommes très blessés, sans. Qu'est-ce que nous allons faire, tout ça? Ils ne travaillent pas. Ils nous ont quittés dans la rivière, ils sont partis. C'était nuit, vous savez. Il faut rire, il ne faut pas pleurer. C'est la prestige arménienne. Nous avons sorti de l'eau, nous avons entré dans un champ de blé, nous avons resté dans les blés.
Cachés.
Jusque le matin. Le matin, nous avons vu que de loin, sous les arbres, il y a des lits. Des Kurdes, ils dorment dehors l'été. Je savais que les Kurdes, ils sont très hospitaliers. Alors, je dis que montrez-moi le chef, la maison du chef. À midi, nous avons trouvé cette maison. Ils sont donnés à manger. Après, on nous a partagé. Le lendemain, ils ont partagé les autres Kurdes qui ont besoin de gens.
Pour travailler?
Pour travailler, oui. J'ai tombé malade. Typhus. Maintenant, je sais que c'était typhus. Fièvre, je buvais que de l'eau. Il n'y avait rien à manger déjà. Ils étaient pauvres gens. Et je parlais toute seule. Et blessure, il est là. Et je n'ai pas mort. Dieu nous gardait. Pour que je vous raconte. Alors, ils ont vu que je ne serais rien du tout. Ils sont amenés, ils m'ont donné à gouvernement. Avec ma sœur. Gouvernement, elle nous a mis dans la prison. Et nous avons resté 40 jours là. Et on donnait une peine noire par jour. Nous n'étions pas coupables. Notre faute était d'être arménienne. Et puis après 40 jours, on nous a amenés à gouvernement encore. Là, on nous a fait musulmans. Il faut dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Jusque j'ai appris ça, et peut-être j'ai mis une demi-heure. Dites « La ilaha illallah ».«
La ilaha illallah ».«
Illallah, Muhammad Rasulullah ».«
La ilaha illallah, Muhammad
Rasulullah ». J'ai dit couramment, je suis devenue musulmane. On a mis mon nom Zubide et ma petite sœur aussi. Zelka, nous sommes devenus turcs. Je suis retournée. Notre maison était habitée par les Turcs. C'était la nuit. Je suis allée par le bateau sur mer Noire. Nous sommes arrivés la nuit, minuit, et c'était nouvel an, je crois. J'ai sonné, une dame avec petite lampe est venue. J'ai dit que je suis la fille de la maison et je n'ai pas une place pour dormir. Veuillez m'accepter, j'ai dit. Il est monté, peu après il est descendu, il a dit « Alors, entrez ». Nous avons resté par terre, il n'y a pas lit.
Vous avez dormi par terre.
Oui. Après, le matin, j'étais dépêchée pour visiter la maison. Je voulais inspirer l'air de la maison. Et puis, ma mère était, quand elle était jeune fille, était sur la mur, dessinait un œillet. Et il me disait que quand j'avais 16 ans, j'ai dessiné cet œillet. Alors, je voulais voir cet œillet. Et j'ai pleuré quand j'ai souvenu de ma mère et toutes les choses qui passaient dans les rues, comment ma mère est morte. Petit à petit, j'ai visité toute la maison, j'ai inspiré l'air. Après, j'ai pleuré un peu, j'ai traîné un peu ici-là, j'ai sorti. Vous savez quels souvenirs ce sont? Raconter, c'est facile, mais sentir, c'est dur.
On a envie de choper tous les mots de cette femme, Madame Zepour Metspakian. Tout ce qu'elle dit est magnifique et beau. C'est vraiment ciselé par 95 années de vie, 80 ans de souvenirs à revoir, à repenser, à nous apporter tout ça, ce cadeau extraordinaire qu'elle nous fait aujourd'hui de nous raconter sa vie et ses pensées qui sont magnifiques, que ce soit des toutes petites choses quand elle dit rire et pleurer son sœur et frère, ou bien des choses qui, enfin, que nous sommes en train de partager. Donc, les Arméniens, les rescapés, vont essayer de survivre en Syrie, au Liban, et ça va être difficile parce que les conditions dans ces pays-là sont très difficiles. Et enfin, en 1922, ils arrivent en France, la Société des Nations les attribue aux pays qui ont besoin de main-d'œuvre. Alors les Arméniens vont arriver en masse à partir de 1922. Ils vont arriver d'abord à Marseille, ils vont vivre là, survivre dans des conditions très difficiles. Il y a encore beaucoup d'Arméniens à Marseille et ils vont vivre là dans des baraquements, dans des bidonvilles, ça va être vachement dur. Et puis petit à petit, ils vont monter, ils vont essayer de trouver du boulot à Aix, à Valence. Très nombreux, il y a toujours une communauté importante à Valence, à Lyon, et puis à Paris, où ils vont s'installer dans des endroits comme Alfortville, comme ici les Moulineaux, et les arrivées, avec retour impossible, ils sont apatrides pour la plupart, vont s'échelonner jusqu'en 1932, et c'est en 1931 qu'arrive notre Zepour.
Toute Turquie, je n'avais rien à faire, je n'avais personne. Pourquoi rester ?
Quand est-ce que vous arrivez en France ?
En France, 1930-31.
Vous partez en bateau ?
En bateau, je suis allée d'abord en Allemagne, parce qu'en Allemagne, j'avais un oncle, le frère de mon père, mais je voyais que je commence à gêner. Je ne peux pas manger. Je gênais, je suis charge.
Vous étiez une charge
pour eux. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais une cousine qui était en Roumanie. Il est venu en France pour travailler. Alors, il m'a dit, si quelqu'un sait prendre une aiguille, elle peut gagner sa vie.
Si quelqu'un sait prendre une aiguille, il peut gagner sa vie.
Je ne savais rien, mais quand même, j'ai dit, au moins, j'ai une cousine. Nous serons ensemble. Qu'est-ce que nous serons? Alors, je suis venu en France.
Qu'est-ce que vous aviez dans vos bagages?
Rien, des habits, rien, je n'avais rien.
Vous aviez de l'argent ?
Non, un petit peu peut-être quelque chose. Je n'avais pas grand-chose, non.
Et vous aviez une adresse, celle de votre cousine ?
Oui, je suis venue comme ça. Elle vivait dans une chambre et une cuisine, trois personnes. Et encore moi, quatre personnes, une chambre et une cuisine. À Clamart.
À Clamart.
J'ai couché avec la petite fille de 12-11 ans et mari-femme ensemble dans une chambre.
Et alors, vous vous êtes mise à travailler ?
Non, pas tout de suite, mais d'abord, j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'on fait, les autres. Je ne savais pas prendre aiguille, je ne savais rien du tout. En regardant les vitrines, en regardant les habits, tout ça, petit à petit, j'ai appris à coudre. Toute seule. Maintenant, je peux faire cette tailleur toute seule. Je mettais sur la chaise la machine. Moi, je restais sur mes valises. Et comme ça, je travaillais. Nous avons travaillé très dur. Très, très dur.
Il y en a à qui ce petit bruit rappelle beaucoup de choses. Beaucoup d'enfants ont été bercés par le bruit de ces machines à coudre dans certaines banlieues, arméniennes ou non. Et aujourd'hui, les enfants qui ont entendu ça étant petits se trouvent quelquefois, ils sont médecins, Ils sont avocats, ils sont aussi quelquefois journalistes.
Nous gagnons un peu, nous faisons économie. Nous sommes, les Arméniens, ils sont habitués d'économiser, arranger, de bonnes journées et mauvaises journées. Nous sommes habitués pour ça.
Ah.
Mais maintenant, en Arménie, vous voyez, il n'y a rien à manger, mais personne ne meurt pas de faim. On s'arrange. Le peuple arménien est fait pour souffrir. Chaque Arménienne, elle ne savait pas travailler avant. Chez nous, les femmes ne travaillaient pas. Donc, chacune se débrouillait toute seule.
Vous parliez français en arrivant en France ?
Très peu. Très, très peu, parce que j'ai pris 3 ans de leçon. J'ai appris à écrire, lire, mais très peu.
Alors, comment vous avez fait ici ?
Ça me suffisait.
Mais quand vous aviez besoin de vous promener, de sortir de Clamart, comment vous faisiez ?
Nous ne pensions pas des choses comme ça. C'est trop tôt. Aller sortir, promener. Vous ne pouvez pas imaginer les Arméniens, comment ils ont travaillé durement quand ils sont arrivés ici. Ni sortie, ni cinéma, ni rien. Rien que travail. La nuit et le jour. Je vous jure. Chacun d'abord mangeait.
Comment se comportaient les Français avec vous ?
D'abord, une espèce de peur, il y en a. Une peur, il y en a. Enfin, nous sommes étrangers, nous sommes petits, nous sommes pauvres, nous sommes ignorants. Nous sommes très, très attentifs de ne pas faire une gaffe.
De ne pas se faire remarquer.
Oui. Et puis, alors, les Français n'étaient pas habitués d'avoir d'étrangers. Ils étaient presque méchants, quelquefois. Tout de suite, ça l'étranger, allez à votre pays, souvent. Mais nous ne disions rien. Quelquefois, je disais, c'est vous qui êtes étranger. C'est vous, allez à votre pays.
Alors, quand est-ce que vous avez commencé à mieux vivre, à vivre mieux, un peu plus aisé ?
Après mariage, marié, tous les deux travaillaient. Voilà, mon mari.
Vous auriez pu vous marier avec un homme pas arménien ?
Je n'ai pas pensé. Tout ça, je n'ai pas pensé. Et à ce moment-là, peut-être non.
C'était important qu'il soit arménien ?
Et oui.
Pourquoi ?
Et pour les Français aussi. Je connais des familles que leurs enfants mariés avec arméniennes n'étaient pas contents. Ça, c'était à cette époque, ça, on était plus patriotiques. C'est maintenant changé. Tout le monde a changé, nous aussi.
Vous aussi.
La moitié, nous sommes mariés avec les Français.
Il y a eu des mélanges.
Mélange.
Maintenant, on se mélange.
Une race viendra plus solide, plus bien. Déjà, c'est commencé. Vous peut-être...
Est-ce que vous vous êtes construit une maison ?
Jamais je n'ai pas voulu avoir maison. Jamais. Parce que tout ce que nous avions, combien de fois nous avons quitté, nous ne pouvons pas installer nulle part.
Parce que vous aviez peur d'être obligé de partir ?
Nous ne voulions pas avoir des choses. Parce que toujours avoir et laisser avoir et voler, ça nous a embêtés. Même ici, nous n'avons pas acheté maison. Je n'ai pas maison. Quitter la maison encore de cette souffrance. C'est une souffrance aussi. Alors je ne veux pas avoir ce chagrin encore. Qui sait qu'est-ce qui va arriver ? Demain, qu'est-ce qui va arriver ? Qui sait ? Une ordre, allez, hop, qui sait ? Enfin, je n'étais pas solide sur mes pieds, quoi.
Mais est-ce que vous vous sentiez en sécurité ici, en France ? En sécurité ?
Oui. Je suis tranquille comme la maison de mon père. Vous avez compris ?
Oui, j'ai compris.
Comme les Français, jamais je n'ai pas senti étranger. Les premières années, oui, parce qu'on nous disait, ça les étrangers, allez à votre pays, souvent. Mais après, maintenant, je me sens comme une Française. Arménie, la France était plus près à nous qu'Arménie, parce que nous ne nous connaissions pas. L'Arménie, les chansons, tout nous aimons, mais nous ne savions pas le goût. Vous avez compris? C'était un rêve que nous aimions. Quand j'étais petite, à l'école, nous avons appris « Oh, mon patrie !» Mais nous ne savions pas. Après, quelques années avant, je suis allée, j'ai vu. Et maintenant, je sais que ce que j'aime. Qu'est-ce que c'est, patrie? Quand je suis allée sortir d'abord sur la terre, j'ai tombé sur la terre, j'ai embrassé la terre et j'ai commencé à pleurer. Vous avez compris?
À Erevan.
Erevan. C'est ça que j'ai senti. C'était quelqu'un, une maman, une quelque chose perdu que j'ai trouvé. C'est ça que j'ai senti. Mais maintenant, j'ai envie de pleurer. C'est ça que j'ai senti.
Et c'était la première fois?
Plus que, oui, première fois.
Il y a 20 ans.
Plus que 20 ans.
Mais c'était déjà l'Arménie soviétique.
C'était l'Arménie soviétique.
Mais est-ce que vous avez parlé avec les gens?
Beaucoup.
Alors? Comment c'était de parler arménien avec des Arméniens en Arménie?
Il y a une équipe qui parlait un peu mauvais, c'est-à-dire mécontent.
Pourquoi?
Mécontent. Ou pour la question de manger, ou la question d'économie, tout ça. Mais les autres disaient qu'un autre régime, je ne pourrais pas supporter. Ils sont habitués, vous savez.
À leur régime politique?
Le régime politique, bolchevisme. Hein? Ils sont habitués. Vous savez, les gens sont habitués vite à toutes les choses, même à misère.
Est-ce que vous aimiez les odeurs de votre pays, les odeurs?
Les odeurs, non. Les odeurs, le pays, je ne sens pas. Mais les odeurs de mort, quand il fait beau, je sens les morts.
Vous sentez les morts?
Les morts, je sens les morts, l'odeur de mort.
À cause de l'odeur de la terre?
La terre, non. Le vent m'apporte cette odeur, on dirait. Du sang ou de graisse, ou des choses comme ça. Vous savez, l'homme est très graisseux. Quand il meurt, ça noircit la terre. Alors, cette odeur, de loin, je connaissais. Toujours mélangé. Notre vie partagée en deux. Et bon et mauvais.
Ouais. Ouais. Est-ce que vous aimeriez retourner là en Arménie encore?
Arménie ou Turquie?
Arménie.
Arménie, et oui, c'est-à-dire si elle serait normale, le temps normal, je voudrais naturellement que je voudrais aller vivre là.
Et pourquoi vous ne l'avez pas fait en 1960?
Il n'est pas sûr là maintenant. Il n'y a pas mangé. Pauvre pays.
Le pays était pauvre.
Pauvre. Comment aller? Comment penser même? Maintenant, je pense que si ça serait bien, je voudrais aller. Mais malheureusement, nous sentons tellement bien en France que souvent, ça ne viendrait pas. Je dis malheureusement, vous voyez.
Ouais, vous vous sentez tellement bien en France que ça serait difficile de partir d'ici.
Oui, nous aimons la France comme vous aimez.
De la même façon que nous.
Oui. On attache comme leur pays. On ne pense pas à autre chose.
Ah voilà, donc votre pays pour vous, c'est la France ou l'Arménie?
Tous les deux.
Les deux.
Tous les deux, je sens.
Vous êtes et française
et
arménienne.
Je suis tellement bien en France comme mon pays. Que je ne dis pas que je suis étranger.
Donc vous avez deux amours.
J'ai deux amours. Mon pays est Paris. Voilà. Et cette chanson, Joséphine Baker, il a bien senti et chanté. Il a senti ça. Comme moi, je sens. Je ne quitte pas France. La France, il n'y a personne qui n'aime pas dans le monde, tout le monde. Même j'étais tout petit, j'aimais. Seulement le nom de France français, je vous jure, il y a quelque chose dedans que ça vous attache.
Quoi?
Je ne sais pas, mais c'est sympathique, c'est chaud, c'est à vous. On dirait que ce n'est pas étranger, France. Français. Vous avez compris? qu'est-ce que c'est.
C'est joli.
Les Français, c'est autrement que des autres pays. Quand je dis anglais, je ne sens pas la chose. Quand je disais anglais ou américain, non. Américaine, je pouvais aller y voir. J'avais des parents là-bas. Jamais, je n'ai pas voulu aller voir Amérique. Mais la France, j'étais comme ça. Ah, Paris, comment c'est Paris? J'imaginais.
Et comment vous imaginez Paris?
Quand même, j'ai eu déçu quand je suis venue.
Ah oui?
J'ai très déçu, surtout car Saint-Lazare est venu, il pleuvait, c'était tout noir partout. Je croyais que je viendrais au paradis. Alors j'ai eu déçu. Ah.
Ils l'ont aimé, cette France, les Arméniens, ils l'aiment toujours. Il y a plein d'histoires comme ça. Les mamies qui écoutaient la radio à Issy-les-Moulineaux et qui parlaient pas un mot de français, sauf quand c'était Aznavour. Alors là, il fallait absolument écouter Aznavour. Et quand c'était De Gaulle, il fallait écouter De Gaulle. Et alors les enfants disaient, mais enfin, pourquoi tu écoutes De Gaulle puisque tu comprends pas un seul mot de français? Et la mamie répondait, oui, mais lui, c'est un brave garçon. Il est pas comme les Turcs, il veut pas nous tuer.
Il y a des familles turques que j'embrasse comme une sœur. Nous embrassons l'un l'autre comme un Français. Mais entre-temps, il y en a une grosse blessure qu'il est là toujours.
Elle ne guérit pas.
Il ne guérit pas, oui.
Est-ce que ça veut dire que vous avez pardonné?
Pardonner, non. Je ne pardonne pas cet exode. Impossible de pardonner, impossible. Humainement, oui, il faut pardonner. Comme chrétien, il faut pardonner, mais on ne peut pas. C'est très dur. On ne peut pas oublier. Non, si je pardonne, mais pas oublier. Une autre génération sont venues qui n'est pas coupable. Même si ça serait coupable, à quoi sert? À quoi sert? Oui, ce qui est arrivé, est arrivé. Peut-être qu'ils prennent de modèle pour ne pas faire répéter.
La même chose.
Oui, ils comprennent que c'est mauvais.
Peut-être.
Autrement, on ne peut pas oublier. Les Juifs, on peut oublier tout ce qu'on a fait. Impossible. Si personnellement, peut-être vous pardonnez comme ça. Mais non, il y a quelque chose qui crie.
À l'intérieur.
Oui. On ne peut pas oublier, on ne peut pas oublier.
Où est-ce que vous avez trouvé toute votre force?
Force?
Oui.
Quelle force? S'il y avait une force, c'est Dieu qui a donné. Moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux changer en ce monde? Rien. C'est Dieu qui m'a donné la tête d'abord pour réfléchir. Autrement, je n'ai pas autre chose à dire que Dieu. N'est-ce pas?
Comment on dit Dieu en arménien?
Dieu, Astvats. Dites.
Astvats.
Astvats.
Atzvatz.
Dieu. Vous êtes allé à l'église arménienne?
Non, mais je suis allée en Arménie.
Vous allez en Arménie, mais je ne sais pas. Allez à Etchmiadzin.
J'ai été à Etchmiadzin.
Vous êtes allée à Etchmiadzin?
Oui, oui.
C'est joli.
C'est très beau.
Oui, mystérieux.
Et je suis allée au lac Sévan aussi.
Moi, j'ai lavé mes pieds dedans.
Ce que j'aimais bien, c'est de voir le mont Ararat.
Mon Ararat ou de loin, oui.
Avec la neige.
Mais nous avons aussi ici les Alpes.
Où?
En France. Chez nous. Et oui, chez nous.
C'est C'était Zepour, l'Arménienne, une nouvelle version d'un reportage de Zoé Varier du 6 juin 1995. Une diffusion en hommage à Aram Guregian qui a rendu possible cette émission. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique « Émission, là-bas si j'y suis », sur le site là-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny et Rémi Quincé. La Bassie J'y suis était réalisée par Bertrand Chometon et Franck Adhérer, assisté de Marina Touyez et de Grégory Salomonovitch, chef du répondeur. Et j'en profite pour rappeler le numéro du répondeur de La Bassie J'y suis, 01 56 40 37 37.
Plus, plus. Avant de me décider sur le choix de plusieurs articles, j'aime savoir où je vais. Même chose pour les services de la banque.
Avec LCL à la carte, vous avez droit à un devis précis. C'est écrit dans notre contrat de reconnaissance.
Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez plus à votre argent, voire conditions en agence ou sur lcl.fr.
Alors ?
Bah alors, je vois une maison.
Non, c'est ma maison basse consommation, équipée au gaz naturel que tu vois. La maison du futur.
Et t'es pas trop en avance sur ton temps ?
Ah bah c'est mon choix, réduire ma consommation jusqu'à 75% avant tout le monde grâce à ma maison BBC. Et pour le confort, j'ai choisi le top !
Une bouillotte intersidérale.
Non, le gaz naturel, ça t'intersidère, hein ?
Pour en savoir plus, appelez le 0810 124 125. Prix de l'appel selon l'opérateur. Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter présente Second Tour de Zebda. Après 8 ans d'absence, le groupe toulousain marque son retour événement avec ce nouvel opus.
Y a autour de mon église et partout, y a des langues qui se mélangent, je suis y'a. Y a pas de prénom, y a que des rouillas, qu'on appelle aussi des trompettes, y'a.
Zebda, en tournée dans toute la France. Retrouvez Zebda dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Excellent après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Et c'est le retour des informations avec vous, Laetitia Gaillet. Bonjour.
Bonjour. Alain Juppé exclut un retrait militaire d'Afghanistan en 2012. La réponse du ministre des Affaires étrangères cet après-midi à l'opposition socialiste qui, au lendemain de la mort de 4 soldats français, demandait un retrait immédiat. Il ne faut pas céder à la panique, leur a dit Alain Juppé. Notre mission n'est pas terminée, a également dit François Fillon. Ce matin, plusieurs centaines de personnes ont assisté à un hommage citoyen rendu donc sur le pont Alexandre III à Paris aux 4 soldats tués la semaine dernière en Afghanistan. Au premier jour du procès de Baltasar Garzón, aujourd'hui devant le tribunal suprême de Madrid, la défense comme le parquet ont demandé l'annulation des poursuites contre le juge espagnol. Baltasar Garzón est jugé pour avoir brisé un tabou en enquêtant sur le sort des disparus du franquisme. Bruxelles a donné son feu vert aujourd'hui à d'éventuelles sanctions financières contre la Hongrie pour cause de déficit excessif, inédit de la part des ministres des Finances européens. Cet accord sur d'éventuelles sanctions intervient en fait le jour où le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est à Bruxelles pour justement parler de ces lois controversées. Nicolas Sarkozy a présenté lui aujourd'hui ses vœux à Marseille au monde de la culture. Le chef de l'État a rappelé son soutien aux professionnels du secteur. Vous êtes une priorité. La crise, dit-il, crée beaucoup de souffrance. Elle demande un effort, mais plus le vent souffle, plus la culture peut servir de boussole. Le chef de l'État, qui a par ailleurs déclaré qu'il lutterait pour la défense des droits d'auteur contre le piratage et les sites de streaming ou de téléchargement direct illégaux, référence à la fermeture du site Mega Upload en fin de semaine dernière. La main-d'œuvre agricole en France a baissé de 25% entre 2000 et 2010. C'est l'équivalent de la baisse du nombre d'exploitations en 10 ans, selon le chiffre révélé aujourd'hui par la revue Agrest Primeur du ministère de l'Agriculture. En 2010, plus de 966 000 personnes travaillaient de façon permanente dans les exploitations agricoles. Ils étaient plus d'un million en 2000. Ceux qui travaillent dans le secteur lié à l'automobile sont moins nombreux, mais tout de même, selon l'Observatoire de branche des services de l'automobile, on comptait en 2010 416 000 salariés en France. L'emploi également a fortement baissé dans ce secteur, mais entre 2008 et 2009 surtout. Vaincre ou mourir, pas franchement le choix pour les handballeurs français. Ce soir, elles affrontent dans le cadre des championnats d'Europe de handball en Serbie l'équipe de Croatie. Les Français ont pour obligation de gagner s'ils veulent espérer poursuivre la compétition. Et encore, c'est pas gagné. Même si elle a été battue par l'Espagne, la Croatie n'est pas une équipe facile. Jérôme Fernandez, le capitaine des Bleus.
C'est vrai qu'à chaque fois, on a tendance à les avoir sur le chemin avant le dernier carré déjà. Donc, ça donne souvent des matchs disputés et durs physiquement. avec beaucoup d'engagement. Mais je crois qu'on se respecte énormément et que ben là, pour avoir discuté un peu avec eux, ils commencent un petit peu à se poser des questions et puis nous voir arriver en phase 2. Donc ils se disent, même si les Français ne sont pas bien, c'est quand même l'équipe de France. Donc finalement, cette défaite des Croates, c'était peut-être une bonne chose pour nous, parce que s'ils avaient gagné contre l'Espagne en jouant bien, je pense qu'ils nous auraient vraiment écrasés. Donc là, le fait qu'ils arrivent avec quelques doutes et que nous, finalement, on soit conscient qu'on n'a plus grand-chose à perdre, ça va peut-être faire l'électrochoc qu'on souhaite depuis le début de cette compétition.
Et c'est ce qu'on leur souhaite, des propos recueillis par Julien Langlais. France-Croatie, c'est du handball. C'est donc ce soir à partir de 18h10. Pour l'instant, sur Inter, il est 16h03.
Addiction, voyage musical, pas banal.
Une émission musicale présentée par Laurence Pierre sur France Inter, du lundi au jeudi, de 23h15 à minuit.
Frissons, émotions, partitions. Tous les soirs, du lundi au jeudi, après le gros journal, 23h15, minuit. Addiction,
à écouter sans modération.
Sans modération. France Inter.
La différence.
Et l'addiction à la musique classique, c'est maintenant avec vous, Frédéric Lodéon, bonjour.
Merci beaucoup, Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, elle l'a dit, Laetitia, addiction à la musique classique. Ah oui, pas si simple, mais enfin, ça va bien grâce à vous d'ailleurs. Je vais faire comme tout le monde, un petit cocorico avec les sondages. Donc nous avons gagné 101 000 auditeurs depuis la dernière vague de novembre-décembre 2010. Et nous sommes vraiment en très bonne position parmi les radios, devant tant d'autres radios qui proposent de la musique considérée comme plus facile, plus populaire, je ne sais pas, en tout cas. Voilà, merci à vous tous, ça fait 624 000 auditeurs. L'audience cumulée tous les jours. On en est très heureux, surtout pour la musique elle-même, parce que c'est un chef-d'œuvre non pas en péril, mais enfin peut-être plus fragile que d'autres matières. Et de toute façon, on est très heureux de le partager, ce chef-d'œuvre, contrairement à d'autres qui voudraient bien le garder pour eux, il faut bien le dire. Alors donc, aujourd'hui, Maurizio Pollini, il avait les mêmes idées. Pollini, dans sa jeunesse, il n'a pas tellement changé, je pense. Mais enfin bon, Pollini, en fait, c'est 70 ans. Pianiste italien, né à Milan le 5 janvier 1942. Dans son enfance, il travaille avec des professeurs particuliers. Il n'a jamais pensé être musicien, d'ailleurs. Et puis, il fait des débuts un peu timides à l'âge de 9 ans. En 57, à l'âge de 15 ans, on remarque ses études de Chopin à Milan. Et puis, il remporte le deuxième prix au concours de Genève. Pour l'instant, c'est pas encore l'explosion. Il va enfin gagné un premier prix en 59 concours Pozzoli à Cerregno, il n'est pas très connu ce prix-là, et enfin l'année suivante, 1960, le prix Chopin à Varsovie. Alors là, c'est évidemment c'est éblouissant, c'est éclatant, c'est la révélation. Arthur Rubinstein, le grand, est au jury, dit ce jeune homme a plus de moyens techniques que nous tous réunis. Il parle de ce jury de grands professionnels, mais contrairement à toute attente, Maurizio Pollini va refuser tous les engagements qu'on lui propose à ce moment-là. Il va se retirer de la scène pendant un an et demi pour écouter, pour méditer, et pas seulement sur la musique. Grande sagesse, je trouve. Il va travailler avec le fameux Michelangeli, difficile à approcher. Et puis à son retour, il va triompher un peu partout sur les scènes internationales. Voici la 12e étude du deuxième cahier de Frédéric Chopin. J'aurais pu choisir évidemment la révolutionnaire, vu que je l'ai dit, et je vais le resituer dans ce combat-là. Pollini s'est vraiment battu, il avait des idéologies très fortes, avec Claudio Abbado, la défense des droits contre les dictatures, etc. Non, ça c'est la 12e néanmoins du deuxième cahier, Molto Allegro et avec feu.